Bonjour à tous, ravi de vous recevoir dans ce rendez-vous de midi. Nous sommes aujourd'hui, vous l'entendez en dessous de ma voix, dans le chalon du 19e siècle, à l'heure où l'automobile ne domine pas encore les rues et où le monde est bien différent. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans ce chalon de l'ancien temps, je suis avec Éric Croisé. Éric, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes vice-président et guide à la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée et vous avez fait un grand travail de recherche sur ce chalon du 19e, début 20e siècle, sur les gens qui y vivait. Aujourd'hui, vous nous proposez des visites guidées de Chalon à partir de vos recherches, Chalon le centre-ville. Alors, commençons par le commencement. Quelle a été votre démarche, Éric Croisé?
Alors, la démarche, elle est toute simple. Lorsque je suis arrivé à l'âge de la retraite, ce qui est une étape importante dans la vie, j'ai voulu mettre en ordre mes souvenirs, qui étaient très mélangés. Et donc, j'ai commencé à chercher. Par exemple, lorsque j'étais gamin, j'allais au stade de voir les matchs de football. Hein, et à quel moment ? Quel âge avais-je à ce moment-là ? Quand je revenais du stade de football, je passais à côté de la Syrie Douette, qui n'existe plus. Et puis, à côté du stade de football, il y avait les bains-douches municipaux. Et les bains-douches municipaux, ils étaient dans l'hôpital, etc. Vous voyez ? Et quand on commence à tirer un fil, eh bien, on s'aperçoit que la pelote derrière, elle est absolument énorme. Et quand vous trouvez des réponses aux questions que vous vous posez, eh bien, vous trouvez encore d'autres questions. Donc, vous allez toujours plus loin, toujours chercher. C'est un jeu, en fait. Hein. C'est un jeu que je pratique depuis maintenant pratiquement 5 ans et qui m'a permis de remonter dans le temps.
Alors, vous remontez dans le temps, mais vous remontez dans le temps à partir de portraits de certaines personnes, si je comprends bien.
Oui, c'est-à-dire que les premières visites qui ont été faites sur Chalon, c'était pas moi qui les faisais, par la Société d'Histoire, s'intéressaient aux bâtiments, l'architecture, etc. Moi, dès la première année où je m'en suis occupé, je me suis intéressé plus aux personnes, les personnes qui vivaient, par exemple, en 1920 ou en 1930. Bon, ensuite, je me suis intéressé à la vie sociale à l'intérieur de cette ville, la vie festive, par exemple, les bals, mais aussi les salles de spectacle qui étaient relativement nombreuses à l'époque. Et puis, petit à petit, en allant justement vers les archives de la Société d'Histoire, j'ai pu aller encore plus loin, c'est-à-dire jusqu'au 19e siècle. Qui vivait dans ces mêmes rues de Chalon, là où mon grand-père, en 1924, avait ouvert un commerce? Quel était son prédécesseur? Quel était celui qui était encore avant lui? Qui était sa clientèle? Qui vivait dans le centre-ville, quoi, en fait?
Donc, mi-19e siècle jusqu'au début du 20e. Comment vous avez retrouvé ces gens-là? Comment vous avez retrouvé les détails?
Alors, ce n'est pas une recherche du tout généalogique, hein, absolument pas. Ce n'est pas une recherche non plus auprès des actes notariés pour savoir qui a acheté quoi à telle époque. C'est une recherche qui est basée sur beaucoup d'informations que l'on a recueillies grâce à un journaliste et écrivain qui s'appelait Auguste Barrault. Auguste Barrault est né à Chalon. Il a exercé en tant que journaliste jusqu'à 80 ans. Et il est décédé en 1942. Et heureusement, il a conservé absolument tout ce qui a été écrit dans le journal du Phare et dans un autre journal précédemment. Et donc, nous avons tout cela à la Société d'Histoire. Alors, on y trouve des petites vignettes avec des informations sur le conseil municipal, mais on y trouve aussi des portraits absolument fabuleux qu'il a réalisés, parce que c'était vraiment un poète, c'était un humaniste, c'était quelqu'un qui s'intéressait aussi aux petites gens, et c'est grâce à lui que j'ai retrouvé toutes ces personnes.
Pour vous, s'intéresser aux petites gens, aux petites histoires, ça s'inscrit dans la grande histoire?
Bien sûr, tout à fait. Il y a des gens qui vivaient dans cette deuxième partie du 19e siècle. Maintenant, ils seraient à Henri Simon, si vous voulez.
Ça veut dire quoi, ça, pardon?
Ça veut dire qu'ils étaient un peu décalés par rapport à la société actuelle, enfin de l'époque, si vous voulez. Maintenant, on dirait non, ces gens-là, il faut les mettre de côté, quoi. Mais non, ils vivaient à Chalon. Ils vivaient à Chalon, ils avaient leurs propres habitudes, ils avaient leur propre métier, quand même, ils exerçaient, et les quartiers dans lesquels que j'ai retrouvés, dans lesquels on les trouvait plus facilement, où ils habitaient plus facilement.
Alors, je vous ai demandé avant cette émission d'amener quelques exemples de personnages. Vous nous en avez sélectionné quelques-unes. Est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire ce midi, l'une des histoires que vous avez sélectionnées?
Voilà. Alors, il y en a une, par exemple. Il y a une rue qui est très intéressante à Chaland, qui s'appelle la rue de la Redoute. Et qui, à cette époque-là, ne s'appelait pas comme cela, elle s'appelait la Petite Rue. Et c'était une petite rue dans laquelle vous aviez d'un côté les jardins des maisons de bourgeoises qui donnaient, dont la façade donnait sur la rue Gambetta, c'est-à-dire la rue principale, et puis de l'autre côté des toutes petites maisons dans lesquelles vivaient des gens qui avaient du mal à joindre les deux bouts, on dirait maintenant. Et il y en a un, par exemple, qui s'appelle François-Jean de la Brosse. Il est né en 1787 et il est instituteur. Mais instituteur privé, c'est-à-dire que il a quelques élèves qui viennent chez lui. Hein. Il n'y a pas, à l'époque encore, on n'a pas encore fait l'école de la République. Hein. C'est très difficile de trouver l'enseignement à Chaland. Et donc, il a des élèves. Mais il en a tellement peu qu'il a beaucoup de mal à en vivre. Et il va terminer sa vie dans la pauvreté totale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont ses anciens élèves qui vont lui payer sa sépulture et qui vont lui payer une tombe dans le cimetière de Chaland. Voilà, une des petites histoires de cette rue. Mais il y en a d'autres, comme par exemple les porteuses d'eau.
Hein, porteuses d'eau.
Les porteuses d'eau.
Il n'y avait pas de robinet à l'époque?
Ah non, le service d'eau à Chaland, il arrive, et encore pour certaines personnes, en 1938.
D'accord. Hein, bon. Ah oui, c'est quand même assez récent. Hein.
Oui, c'est quand même récent. Et donc, avant, eh bien, la solution, c'est avoir un puits, mais les puits sont souvent pollués.
Un puits dans la maison?
Un puits, oui, ou dans la cour, dans le jardin. Il y a quand même les gens, toutes les maisons ont des jardins à l'époque. Hein. Et puis l'autre solution, si vous n'avez pas cela, ou si vous voulez vraiment une eau très pure, eh bien, c'est de faire appel aux porteuses d'eau. Et les porteuses d'eau, elles vont s'alimenter à la bonne fontaine. La bonne fontaine qui se trouve à côté des moulins, et ces moulins, ils étaient à peu près là où est l'hôpital actuel.
D'accord, voilà. Donc tous les jours, ces porteuses d'eau, c'était uniquement des femmes?
Ce sont des femmes. Il y a eu pendant un temps un concurrent masculin qui est arrivé avec un âne et une charrette, et il avait mis une barrique, donc il avait plus de facilité pour livrer, mais comme il buvait encore plus de vin que d'eau, il n'a pas tenu très longtemps. Il est mort, et après les porteuses d'eau en étaient enchantées.
Voilà. D'accord, donc c'était uniquement des femmes qui allaient un endroit où il y avait de l'eau, une fontaine. Vous dites bonne fontaine, mais c'était une fontaine, c'était pas un puits?
Non, c'était une fontaine. La mère Tougeron, entre autres, c'est une de ces personnes qui avait toute une clientèle en ville de bourgeois, où elle livrait son eau. Elle livrait aussi quelquefois autre chose. En même temps, elle faisait quelques courses. Voilà. Et il y en avait dans cette rue, qui habitait dans cette rue, il y en avait trois. Déjà dans cette rue de la Redoute ou la Petite Rue.
Donc ils faisaient des allers-retours entre cette fontaine et puis les personnes. C'était les personnes les plus riches qui avaient accès à ce genre de service.
Oui, je pense que c'était les personnes, les médecins, les notaires, etc. qui vivaient en ville. Alors un petit mot sur la fontaine. Cette bonne fontaine, eh bien, elle est protégée. Il est interdit d'y laver son linge. Et il y a un arrêté qui va paraître en 1783, c'est une audience de police qui condamne les personnes qui laveraient leur linge au pied de la fontaine et qui risquent ainsi de polluer les nappes, si vous voulez, qui sont en dessous, les nappes phréatiques. Eh bien, elles peuvent être condamnées à une amende. S'il y a récidive, la double d'amende, et s'il y a trois récidives, on va en prison. Voilà, on protège l'eau de la bonne fontaine parce qu'elle est pure et elle est indispensable, si vous voulez, à la bonne santé des Chalandais. À l'époque, il y avait des épidémies assez violentes encore, dues à la mauvaise qualité de l'eau.
Tout ça pour garder une eau propre. On va faire peut-être une pause musicale. Thierry, qu'est-ce qu'on écoute?
Rookin', le duo que vous entendez beaucoup cet été sur Neuve et que vous avez peut-être vu à Ultrasong Notre-Dame de Mont. Voici le titre Mortel sur Neuve.
Il est au ciel tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
J'ai un super tout-bib, un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme.
Il me dit qu'il me reste 24 heures sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab, mais j'ai plus qu'un jour tout juste.
Filé au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et là du chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
Autour de moi dansent tous mes potos, pour mon dernier tour complet. Je veux tout le monde sur la photo, je suis malade mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus, dans ses bras vient m'entourer. Alcool tombé comme s'il avait plu, même ma mère est bourrée.
Non. Filé au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire.
Non, non.
Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Hey. Je profitais comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ.
Ouais.
Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
De vodka, comme dans un film de Costa Rica. Même s'il y a une âme au fond de ma viande, même au bord des flammes, je t'aime et je bande. Ça me tord le bide de ne pas vous suivre, mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre. Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour. Fermez mes paupières, merci pour l'amour.
Filé au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je vais profiter comme un salopard. C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ. Y'a rien de criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel.
Immortel, à l'instant sur Neuve, à 12h51, on remonte le temps aujourd'hui avec plaisir. Jusqu'à 13h, les rendez-vous de l'été avec vous, Théo Rododon, votre invité, Éric Croisé.
Oui, Éric Croisé qui est le vice-président et guide de la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée. Éric Croisé qui vient nous parler de visites dans Chaland à partir de ses propres recherches sur des portraits d'habitants du Chaland du 19e et 20, début 20e, 20e siècle. Éric Croisé, pourquoi vous vous êtes intéressé plutôt au portrait des gens plutôt qu'à l'époque, en faisant des recherches, on en parlait tout à l'heure, sur les relevés notariaux ou alors tout simplement à partir des bâtiments, de l'architecture. Pourquoi les gens plutôt que l'époque et ce qu'il y a autour?
Disons que ces personnes sont beaucoup plus nombreuses que les bâtiments qui sont intéressants sur le territoire de Chaland. Voilà, c'est assez limité. C'est une ville qui est très récente, qui s'est construite pratiquement, on va dire, au milieu du 19e siècle. Donc, en fait, il reste très peu de choses qui aient une valeur, si vous voulez, architecturale, qui date du XVIe, qui date du XVe siècle. Donc, les gens, par contre, eux, m'intéressent énormément. Il y a, par exemple, alors je m'intéresse également aux commerçants, hein, les commerçants, les artisans, des gens qui sont arrivés justement à cette époque-là, entre 1800 et 1850, que l'on appelait les étrangers. Alors les étrangers à Chaland, comme partout hein, d'ailleurs, ce sont des gens qui viennent des Sables-d'Olonne ou qui viennent de Salertaine
ou de
Châteauneuf. Voilà, c'est un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas né sous le même clocher.
Ah oui, d'accord.
Donc, vous avez même des communes où vous avez des fois une commune à coller, et vous avez un clocher principal et un clocher dans l'autre petit bourg. Eh bien, ce sont des étrangers, les uns avec les autres. Voilà. Donc, c'est un terme qu'on a utilisé jusqu'à pratiquement la guerre de 39-40. Et donc, il y a une famille très intéressante qui arrive des Sables d'Olonne en 1800. Il s'appelle Pierre Roguin et il est orfèvre. Et il a une spécialité, il fabrique des bijoux cœur vendéen. On n'est pas loin de la guerre des Vendées, c'est terminé il y a très peu de temps.
Oui, c'était pas, il n'y a pas si longtemps.
Non, il n'y a pas si longtemps.
C'est encore dans les mémoires.
Donc le cœur vendéen est quelque chose que l'on recherche. Eh bien, il y a le cœur vendéen évidemment sur du tissu qui peut être brodé, mais lui, il en fabrique en argent. Et il les fabrique d'une façon très intéressante. Il a fait des moules dans des os de seiche. Et ça, c'est une technique qui est très ancienne. Ça se pratiquait à l'époque des Grecs, ça se pratiquait à l'époque du Moyen-Âge. Et donc, il sort des bijoux comme cela, presque en série, si vous voulez, en fondant son métal dans les seiches. Et ça a une renommée. Et les gens viennent les acheter de loin. Et même lorsqu'il va décéder, eh bien, sa femme et ses enfants vont continuer le commerce qui va ensuite être vendu. Alors, c'est un orfèvre. Ça va être vendu à un autre bijoutier qui va arriver plus tard.
Donc, toujours à Chaland.
Toujours à Chaland.
Comment vous...
Pardon.
Allez-y, pardon.
Non, il était installé dans ce qu'on appelle actuellement la rue Carnot.
Comment vous retranscrivez ces portraits dans les visites que vous faites? Vous vous baladez à travers les rues, vous parlez de la rue Carnot qui existe toujours. Comment vous retranscrivez ces portraits dans vos visites, Eric Croiset?
Alors, si vous voulez, je me suis préparé un plan avec les rues principales de Chaland, dans lesquelles j'ai mis des numéros, les numéros qui existent maintenant, et en face de chaque numéro, eh bien, j'ai plusieurs personnes. Des personnes qui vivaient en 1870, des personnes qui vivaient en 1925, etc. Et suivant les informations que je possède sur elle, je développe ou je ne développe pas. Voilà. Mais le problème que j'ai maintenant, c'est que j'ai pratiquement de quoi faire 3 visites de 2 heures.
Donc, ça fait quand même...
donc je suis obligé de scinder, si vous voulez. On ne fait pas l'ensemble des quartiers, ça c'est évident.
On ne fait pas 6 heures de visite.
Voilà, on ne fait pas 6 heures de visite parce que on commence à 8 heures et ça terminerait très tard.
Vous êtes un passionné d'histoire, Eric Croiset, et quelquefois, vous me le disiez pendant la musique, la grande histoire vient s'entremêler avec la petite. Comment ici vous pouvez nous donner un exemple de cette grande histoire qui vient s'entremêler avec ces quelques petites histoires que vous venez de nous raconter?
Là, ce serait plus, si vous voulez, c'est dans l'architecture aussi, mais c'est dans la façon dont vivaient les gens. Par exemple, après les guerres de Vendée, Chaland a été une place longtemps occupée par des armées. Par exemple, quand il y a eu la guerre de 1870, beaucoup de gens qui étaient positionnés à Chaland ont été obligés de partir. Pour la faire, ils n'avaient pas du tout envie de partir, parce que évidemment, on savait dans quelles conditions on allait combattre. Il y avait donc jusqu'à la fin du 19e siècle, vous aviez une garde à Chaland, qui était parfois composée de 100-200 personnes, 200 soldats, et auxquels les Chalandais étaient obligés de prêter des chambres, ou de donner des lits, ou de donner des draps, c'était réquisitionné. Donc ils vivaient avec ces gens-là. Alors il y a eu d'ailleurs pendant un temps une salle de garde qui a été prévue, qui a été construite sur la place actuelle de Gaulle, à côté des halles. Il y avait des halles qui étaient là, et on demande même de récupérer le bâtiment de la chapelle Saint-Symphorien à Chaland pour construire cette salle de garde. Bon, ça n'a pas été fait, mais la salle de garde s'est construite quand même. C'était un endroit où il y avait juste à côté l'arbre de la liberté qui avait été planté. C'était un orme très important qui était donc à côté des halles, des halles de la place de Gaulle, je précise bien, et de ce cantonnement. Voilà.
Ces halles, vous y passez certainement pendant vos visites. Qu'est-ce que retiennent les gens qui viennent avec vous se promener dans Chaland, et qu'est-ce que vous avez retenu de ces années de recherche?
Eh bien, si vous voulez, c'est un peu une visite virtuelle quand même, hein, puisque les endroits où on se trouve ne correspondent plus du tout à ce que je peux décrire dans la visite. Mais ça apprend quand même beaucoup de choses et aux Chalandais. Et surtout, le public est assez important dans cette catégorie-là, de gens qui viennent d'arriver à Chalon. Des gens qui viennent de s'y établir parce qu'ils sont à la retraite, ils ont quitté la région parisienne ou un autre endroit, ils avaient l'habitude de venir sur la côte pour leurs vacances et ils ont acheté un appartement, une maison à Chalon. Bon, ils n'ont pas d'histoire. Donc, lorsqu'ils ont, par exemple, de la famille qui vient les voir, ils aiment bien leur raconter, voilà, on vit là, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Donc, je leur donne, en quelque sorte, les moyens,
les outils,
de se créer un passé. D'ailleurs, nous sommes en train, à la Société d'Histoire, d'écrire actuellement un livre sur l'histoire de Chalon, qui devrait sortir, nous l'espérons, pour la fin de l'année.
Eh bien, vous reviendrez à cette occasion. Simplement, côté pratique, on arrive bientôt à 13h pour terminer cet entretien. Quand est-ce qu'on peut venir avec vous visiter Chalon ?
Alors, il reste deux visites officielles. Alors, celle du 11, non, c'est passé. Le 18 août, le mercredi 18 août. Et puis, le 1er septembre. Mais j'en ai rajouté une entre les deux. Donc, il ira également le mercredi 25 août.
Entendu. Où est-ce qu'on réserve pour venir vous voir ?
Alors, pour réserver, c'est l'Office de tourisme de Chalon, mais pas simplement de Chalon, de Beauvoir, de Boin, etc., puisque ces visites-là ont été prises en charge par Chalon Gois Communauté.
Voilà. On peut réserver dans ces offices de tourisme. Notez aussi, à vous qui nous écoutez, que l'association de la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée réalise des conférences autres que sur ce Chalon du 19e, 20e siècle, notamment sur le Moyen-Âge. Deux mots là-dessus, Éric Croisé.
Oui, alors nous sommes à Coudry, je suppose que c'est la commanderie dont vous voulez parler. Nous sommes à Coudry tous les vendredis. Et il y a une visite le matin à 10h30, une autre à 15h30 l'après-midi, pour lesquelles nous changeons de thème. Là, par exemple, demain, c'est sur le thème des chevaliers pour l'après-midi, et ça peut intéresser le jeune public. Et le matin, c'est sur les rapports entre l'Orient et l'Europe à l'époque des Templiers, à l'époque des croisades.
Éric Croisé, président et guide de la Société d'Histoire et d'Études du Nord-Ouest Vendée, merci d'être venu nous parler de tout ça, c'était passionnant.